on devrait peut-être réagir aussi, parce que celui qui était très triste ce matin, il avait raison, c'était Pascal Pro, et il était triste et il était en colère de voir ce qui se passe à Sciences Po avec Madame Retailleau qui a applaudi à la décision de Sciences Po, qui a acheté d'une certaine manière la paix sociale avec ses ces militants pro-palestiniens qu'on a vus, qui interdisent aux étudiants juifs de se rendre dans les amphis pour suivre les cours. Regardez ce qui s'est passé à la Sorbonne cet après-midi. Je vous propose d'écouter Madame Retailleau, c'est un sonore de cet après-midi, parce que en l'occurrence notre reporter Louis Sellé est allé lui parler justement de Sciences Po. Aujourd'hui Madame Retailleau faisait un déplacement sur toute autre chose, mais quand même on a voulu savoir, et vous allez l'entendre, elle esquive un peu la question, mais écoutez donc quand on lui demande la situation à Sciences Po, ce qu'elle en pense.
J'ai répondu hier à vos collègues sur d'autres, donc j'ai donné ces explications et la position, ma position, la position très claire du gouvernement. Là, je pense qu'il faut parler CROUS, parler étudiants, et on reste vigilants pour l'ensemble.
Voilà, circuler, il n'y a rien à voir.
Paul Meulin. Rien à voir. C'est pas tout à fait les mêmes propos, d'ailleurs, qu'avait tenu Gabriel Attal quand lui était allé à Sciences Po. Propos qui avaient causé des cris d'orfraie au sein de la communauté éducative et de certains étudiants. Le problème de Sciences Po, mais il ne faut pas placer la focale que sur Sciences Po, on pourrait l'étendre, le problème des universités de sciences humaines en France et même plus généralement en Occident. Regardez ce qui se passe dans les universités les plus prestigieuses du monde, de la Ivy League, les universités américaines, à Columbia, à Yale, à Harvard, dans toutes ces grandes universités. Il y a une lame de fond qui n'est que le prolongement de l'idéologie woke et déconstructionniste qui a été promue par des gens comme Judith Butler, qui elle-même d'ailleurs a tenu des propos plus qu'ambigus à l'égard du Hamas, et que cette idéologie-là a infusé dans les jeunes esprits des étudiants en sciences humaines, et qu'aujourd'hui des minorités agissantes fichent une pagaille monstrueuse avec en prime la lâcheté confondante, souvent, des directions d'établissements et des professeurs, directions qui sont terrifiées parce qu'ils ont peur des vagues, ils ont peur du scandale, ils ont peur de ces étudiants qui fichent en l'air tout sur leur passage. Ils ont épuisé quelques directeurs qu'ils ont d'ailleurs poussés à la démission, Frédéric Million puis Mathias Vichra. Donc c'est une école qui aujourd'hui est en proie à une forme d'insurrection petit bourgeois, pour répondre de certains élèves.
Sans prendre
terrible.
Pour un illuminé, je vais reprendre une phrase du Christ, Georges Fenech, mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils font?
Pardonnez-leur, Seigneur. Mon Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Mais en tout cas, moi, je voudrais.
Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Non, mais sérieusement, en fait.
Qui ils?
Les manifestants, là, qu'on a vus à Sciences Po, ceux qu'on a vus encore cet après-midi à la Sorbonne, qui déroulent des... Qu'est-ce que c'est? Ils sont entraînés par d'autres? Ils sont.
Mais écoutez.
On dit c'est de l'idéologie. Moi, je veux bien, mais à un moment donné, est-ce qu'ils sont tous idéologues?
C'est quoi? C'est le poisson pourri par la tête. Oui. Quand vous avez des représentants de la nation qui crient matin, midi et soir, des propos, des allusions qui flirtent avec l'antisémitisme, comment voulez-vous que des jeunes qui sont déjà réceptifs à ce genre de discours ne se lâchent pas? Et moi, je tiens à féliciter Valérie Pécresse qui aujourd'hui a supprimé, en tout cas provisoirement moins, les subventions
de la région Île-de-France.
De la région à Sciences Po pour la région
Île-de-France. Tant que la sérénité et la sécurité ne sont pas rétablies.
Et ça me rappelle la même décision qu'avait prise Laurent Wauquiez à la région Auvergne-Rhône-Alpes contre Sciences Po Grenoble quand ils avaient licencié un professeur qui avait dit que ça se passait mal à Sciences Po à ce moment-là. Mais je crois qu'à un moment donné, il n'y a que ça qui permet d'arrêter les choses. Et ce qu'on attend maintenant, c'est qu'effectivement, le gouvernement, le Premier ministre, reprenne la main sur Sciences Po Paris.
Bien sûr. Et il va peut-être y aller, justement, parce qu'il l'avait déjà été une fois. Donc, et d'ailleurs, il se murmure qu'il devrait faire quelque chose. Mais pour l'instant, on n'a pas vu du concret. 19h43, on va en parler, justement, de Sciences Po dans un instant, dans Europe 1 Soir. Je vous signale que puisque je parlais de lui tout à l'heure, vous retrouvez bien sûr Pascal Pro deux fois par jour sur Europe 1. D'abord, l'heure des pros, 9h-9h30 en codiffusion avec CNews. Et ensuite, 11h-13h, Pascal Pro et vous. C'est vous qui prenez la parole. Vous appelez 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Europe 1 vous rappellera et demain il recevra Philippe Val pour son livre Rire qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire et que vous retrouvez chaque lundi dans Europe 1 Matin, bien sûr. Après les infos de 8h30, nous sommes en compagnie de Paul Meulin et de Georges Fenech et nous retrouvons dans un petit instant sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Et justement, on en parle de ces situations dans les universités, comme le disait à l'instant Paul Meulin, très justement, ça n'est pas que Sciences Po, ça n'est pas que la Sorbonne, ce sont également d'autres universités dans le monde occidental en général. Je voulais qu'on écoute ceux qui sont là et qui voudraient bosser Hein, il y a aussi des étudiants, oui, accessoirement, qui voudraient éventuellement suivre des cours, qui voudraient éventuellement avoir un diplôme avec lequel ensuite ils vont pouvoir trouver du travail. Alors écoutez, Pierre-Alexandre, il est étudiant à Sciences Po et il témoigne chez Pascal Praud, c'était ce matin sur Europe 1.
Voilà, moi ça fait 6 ans que je suis sur le campus de Paris à Sciences Po. Je n'ai jamais vu l'école dans cet état-là. En réalité, il y a un changement de public très clairement à Sciences Po. C'est en train de devenir de plus en plus une école de militants. Nous, on veut simplement étudier. Et quand on voit qu'il y a 15 personnes qui viennent bloquer le campus et qu'on leur cède tout, c'est-à-dire qu'ils viennent perturber les examens, ils viennent bloquer Sciences Po, ils viennent intimider d'autres étudiants, des personnes qui ne sont pas d'accord avec elles, et à la fin, on leur cède tout. C'est très difficile à dire s'ils sont une minorité ou pas. La réalité, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'à Sciences Po, il y a 55% des étudiants qui affirment avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon. Nous, on a une culture plutôt libérale, dans le sens où, voilà, nous, on est des individus qui allons étudier individuellement et qui voulons tout simplement travailler, accumuler de la connaissance, etc. Et on n'a pas cette culture qui nous vient de l'extrême gauche, de l'organisation de blocages, de manifestations bruyantes, de provocations. On n'a pas cette culture-là. Donc ça, c'est la première chose qui fait que les étudiants devraient s'interroger sur la manière de lutter contre ces minorités très bruyantes. Et puis, tout simplement, la deuxième raison, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants qui travaillent vraiment, les étudiants qui, comme moi, font des alternances à côté de leurs études, on n'a pas le temps, en réalité, pour financer nos études, etc., de militer, de bloquer, de s'adonner à ce genre d'activité. On ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, en réalité, c'est une minorité qui a les moyens voilà, de prendre son temps, de prendre sa journée pour embêter le reste des étudiants.
Paul Moulin.
Mais c'est un discours qui est très très juste, qui est limpide même. C'est-à-dire que la tradition des instituts d'études politiques, depuis 1871 et la fondation par Émile Boutmy, c'est précisément la liberté. C'est une tradition libérale.
D'où l'amphithéâtre Boutmy aussi.
D'où l'amphithéâtre Émile Boutmy. C'est une tradition libérale, les sciences politiques. C'est une tradition où les idées se confrontent, parfois dans un chaudron, parfois les idées s'échauffent, parfois c'est rude, parfois ça peut être intellectuellement violent, mais c'est toujours stimulant. Mais au moins, il y a du débat, il y a du pluralisme. Là, aujourd'hui, les bloqueurs en question sont des censeurs. Ce sont des destins justes, des bacs à sable. Ils n'aiment pas le débat. Ils l'empêchent. Ils interdisent les étudiants qui ne sont pas d'accord avec eux d'entrer. Ils essaient de lyncher moralement et verbalement des journalistes qui font leur travail devant les portes de leur établissement. C'est l'antithèse de la démocratie. C'est l'antithèse de la démocratie libérale. Et honte à eux. Donc, il faut aujourd'hui, effectivement, prendre des mesures très radicales.
Georges Fenech.
On attend ces mesures que devrait prendre normalement le Premier ministre. Mmh. Alors, j'ai écouté tout à l'heure Punchline de Laurence Ferrari, une députée de la majorité.
Très bonne émission.
Très bonne émission, oui. Qui a fait un déplacement à Sciences Po avec d'autres parlementaires. Ils ont rencontré, c'est ce que j'ai entendu, l'administrateur provisoire, qui leur assurait que les sanctions n'étaient pas annulées du tout, pas du tout, qu'elles seraient effectivement maintenues, qu'il n'y aurait aucune rupture avec le partenariat avec les universités israéliennes.
Donc il y a deux discours, il y a deux langages. Vous avez entendu Pierre-Alexandre à l'instant.
À cette heure-ci, je ne sais plus maintenant qui croire. Cette députée disait les choses telles qu'elle les a entendues, de la bouche, donc encore une fois, l'administrateur. Mais je crois que là, il y a une grande confusion, et il faut absolument, effectivement, que le Premier ministre reprenne les choses en main.
Bon, bah peut-être qu'il les reprendra. En attendant, c'est un ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui était ce matin sur CNews et sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk, et il parlait de l'occupation de Sciences Po.
On va organiser un débat sur la légitimité d'expression de haine des Juifs et d'Israël. On va se plier aux exigences de l'extrême gauche, de la France insoumise et de fait de leurs alliés islamistes. Et on va plier devant une minorité d'étudiants violentes qui terrorisent la majorité
et
qui bloquent Sciences Po.
Comment vous
qualifiez ? J'appelle ça de la lâcheté, j'appelle ça une reddition face à l'islamo-gauchisme et j'appelle ça de la soumission parce que cela rappelle en effet le livre de Michel Houellebecq sur un roman, mais qui anticipait ce que pouvait dire la soumission face à l'islamisme. Donc, c'est un Munich de la pensée.
Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le roman de Michel Houellebecq, précipitez-vous, c'est effrayant ce qui se passe dans Soumission, mais ça vaut le coup quand même de le lire. J'espère que ça n'est pas prémonitoire, Paul Melun, parce que
par certains aspects,
honnêtement, c'est en gros, enfin, je parle sous votre contrôle, c'est le grand remplacement romancé.
Disons que le narrateur est un professeur des universités qui, par lâcheté, finit lui-même par se convertir à l'islam, dans c'est le ça. Roman de Michel Houellebecq. Donc c'est une dystopie, évidemment. Toute comparaison avec la réalité, vous connaissez la suite de l'avertissement. Non, il se trouve que là où Manuel Valls a parfaitement raison, c'est que les présidents d'université et certains professeurs ont fermé les yeux sur la montée de l'islamo-gauchisme depuis maintenant plusieurs années, par lâcheté, par couardise, par effet de mode, parce que ça faisait bien dans les salons. Mais aujourd'hui, le retour de bâton est d'une violence extraordinaire, tant et si bien qu'aux États-Unis, par exemple, les démocrates de M. Biden commencent à dire « ça va trop loin », alors que ce sont les mêmes qui, pendant des décennies, ont subventionné moralement, financièrement, intellectuellement, et ont armé idéologiquement ces jeunes gens en faisant une forme de gauchisme un peu dégénéré.
Parce qu'il y a des personnes intégrées maintenant, il y a de l'intégrisme dans ces hordes de population dans les universités américaines aujourd'hui. Il n'y a pas juste que des étudiants venaient qui s'appellent Brian et qui mangent des hamburgers.
Non, mais c'est vrai que depuis quelques années maintenant, on importe tout ce qu'il y a de meilleur des États-Unis. Le wokisme, l'écriture inclusive, ça c'est plus spécifiquement français.
Mais vous êtes dur quand même de dire qu'on a importé ça des États-Unis.
On l'a d'abord exporté.
Moi, je trouve que
vous croyez que c'est nous qui avons
exporté avec la French Theory. Si vous lisez le dernier tome de l'épopée politique de la Ve République de François-Olivier Gisbert, c'est très juste. Il dit que dans les années 80, il y a eu tout d'un coup un engouement pour le monde musulman. Attention, je fais bien sûr la distinction entre les musulmans et l'islamisme radical ou l'islamisme totalitaire, comme le disait encore dernièrement le philosophe Philippe Capel-Dumont ici dans ce studio à Europe 1. Mais il y a eu un engouement pour le rail, pour la culture, et puis alors, est-ce que tout ça est arrivé, comme le dit François-Olivier Gisbert, de manière un peu insidieuse, alors que dans les années 90, au même moment où nous on entendait Sardou chanter les musulmanes, il y a eu cette guerre terrible dans les années 90 en Algérie, dont personne ne parlait, et qui pourtant était justement l'incarnation, les prémices de ce qui s'est passé ensuite le 11 septembre 2001 sur les tours du World Trade Center. Est-ce qu'il y a eu un aveuglement complet sur ce qui était en train de monter?
On sera peut-être d'accord, Georges, mais il y a eu une révolution culturelle, et François-Olivier Gisbert explique ça assez bien, c'est-à-dire que Schubert, Bach, toute la vieille culture européenne ou française a été mise au rebut, parce que ça faisait bien, que c'était moderne, et on a effectivement eu une espèce de fascination extraordinaire et démesurée pour les cultures du monde. Alors c'est très bien, moi je trouve le Quai Branly extraordinaire, je trouve qu'il y a dans les arts premiers des choses fascinantes, évidemment. Mais entre cela et la détestation de sa propre culture, il y avait peut-être un juste milieu.
À condition qu'elle existe, puisque le président Appuy, je crois, à un moment, a dit qu'il n'y avait pas de culture française.
Absolument.
Non, je me trompe.
Il s'inscrit dans cette filiation.
Je crois qu'il faut arrêter, quoi. Il faut défendre, effectivement, notre culture, notre identité, nos patrimoines, tout ce qui fait la richesse, la beauté de notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une forme de détestation, d'une partie, en tout cas, de nos concitoyens, de ce que nous représentons.
En tout cas, on a l'impression que tout le monde, là, joue aux pompiers de service, on essaye de sauver la situation. Là, on parle d'une mise sous tutelle de Sciences Po Paris. Georges Perec, est-ce que... Non, mais je sens dans votre ironie comme disent certains animateurs, c'est fichu. Est-ce qu'il y a... une possibilité de... Est-ce que c'est avec cette mise sous tutelle, on sauvera une partie des choses, une partie des meubles? Ou est-ce que
il n'y a pas le choix. Je pense qu'il faut une tutelle rapide, d'ici 24 heures, sur Sciences Po, rétablir le calme, l'ordre, la sérénité, continuer le processus de sanctions disciplinaires, et accélérer le processus peut-être de nomination d'une nouvelle équipe dirigeante.
Mais j'ai peur qu'une mise sous tutelle ne suffise pas. On peut pas mettre les cerveaux et les esprits sous tutelle. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Georges. C'est-à-dire que cette mise sous tutelle au plan administratif, elle fait bien sûr sens. Par contre, au plan intellectuel et idéologique, il va falloir des décennies pour changer cette révolution culturelle, tant elle est profondément ancrée dans ces jeunes esprits. Et notons une chose, on parlait des jeunes. Faut pas parler des jeunes de façon générique, parce que quand vous regardez les enquêtes d'opinion, vous avez une majorité de jeunes qui, par exemple, à moins de 25 ans, votent pour le Rassemblement National. Donc, l'image qu'on a des jeunes, quand c'est pas les jeunes dont on parle dans les salons à Paris, qui sont tous à la marche pour le climat, jadis à Nuit Debout et maintenant à Sciences Po Paris. Ça, c'est une toute petite minorité. Ils ont toute légitimité à parler et à s'exprimer dans le débat, bien sûr, comme d'autres jeunes. Ces jeunes qui vivent parfois en province, dont on parle pas. Ces jeunes qui travaillent dur, qui travaillent tôt, qui travaillent parfois à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui sont apprentis, qui font des CAP. Et je trouve que ce qui est terrible, c'est que Sciences Po donne une très mauvaise image aujourd'hui de l'élite académique, mais aussi de la jeunesse, paradoxalement. Donc il faut, c'est un peu plus complexe, et Dieu merci, il y a beaucoup de jeunes qui partagent pas ce que disent ces étudiants minoritaires.
Ouais, mais comment est-ce qu'on va les mettre d'accord? Parce que il y a forcément de...
C'est difficile. D'accord. Il y a des règles, il y a des principes, il faudrait pas qu'une minorité puisse imposer par la terreur intellectuelle, voire maintenant physique, d'autres points de vue qui sont totalement minoritaires. Je pense que la direction doit s'assurer du libre débat, je suis entièrement d'accord avec Paul, même flamboyant, même vigoureux, le libre débat, mais dans le respect mutuel, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Bon, ben écoutez, messieurs, on verra ce que notre Premier ministre décidera, s'il y aura une mise sous tutelle de Sciences Po, s'il y aura une mise sous tutelle de la Sorbonne et peut-être une mise sous tutelle de la France, puisque Georges Fenech a donc lancé l'idée ce soir sur Europe 1, pourquoi pas. Merci, messieurs.